Podcast. La première. Un jour dans l'histoire. Laurent Dehaussée.
Ce matin du 15 novembre 1902, un épais brouillard s'étend sur Bruxelles. Il ne pleuvra pas, mais on n'aura droit qu'à 10 minutes de soleil, température maximale de 6 degrés. Le 15 novembre, c'est la Saint-Léopold et la tradition veut que la famille royale assiste à un tédéum à la collégiale Michel et Gudule. Mais cette année, les circonstances sont un petit peu particulières. La reine Marie-Henriette vient de décéder et le roi a décidé de faire célébrer un service funèbre à la mémoire de son épouse. Il va y assister en compagnie de son frère cadet, Philippe, et de sa belle-sœur, la princesse de Hohenzollern. Il y aura aussi son neveu, le prince héritier Albert, et son épouse, Elisabeth. Présent également la princesse Clémentine, fille de Léopold II, le comte John d'Outremont, grand maréchal de la cour, le général Stroke, aide de camp du roi et le comte Édouard Van Asch, maître de cérémonie du palais. Ce matin du 15 novembre 1902 est aussi le jour qu'a choisi un anarchiste italien pour assassiner le roi des Belges. Il s'appelle Gennaro Rubino.
Un jour dans l'histoire.
Des démonstrations de masse s'organisent, des cortèges défilent derrière le drapeau rouge que les autorités n'ont pas osé interdire. Les libéraux radicaux, désavantagés aussi par le système censitaire, mais qui, eux, ont une représentation parlementaire, commencent à faire campagne aux côtés des socialistes pour une révision constitutionnelle qui permettrait de voter le suffrage universel.
Voilà, toile de fond de l'histoire que l'on va vous raconter aujourd'hui, hein, ces émeutes, de la population qui réclame le suffrage universel. Avec nous, Anne Morelli. Bonjour Anne Morelli.
Bonjour.
Vous êtes historienne, professeure à l'ULB, notamment de critique historique appliquée aux médias modernes. Alors pour bien saisir le sujet qui est au fond la fabrication d'un terroriste, hein, il nous faut remonter au 23 novembre 1859, direction le sud-est de l'Italie, à Bitondo, dans les Pouilles. C'est là que naît un enfant de sexe masculin prénommé Gennaro, ça veut dire janvier. Ses parents s'appellent Emanuele Rubino et Raffaella Cervone. Alors de quel milieu vient-il cet enfant ?
Alors Gennaro Rubino est né dans un milieu, je dirais, de très petite bourgeoisie. Son père est vétérinaire et maréchal ferrant. Enfin, vétérinaire à l'époque, c'est quelqu'un qui s'occupe des animaux. Il n'a pas fait des études supérieures. Sa mère meurt dès qu'il a 11 mois. Et donc, il va passer une enfance sans grande affection, mais aussi une enfance banale pour son époque. C'est un petit garçon très éveillé. Tout le monde concourt à dire que c'est un enfant intelligent. Et il va très rapidement avoir terminé toutes les études possibles dans son petit village.
Ouais. C'est un père qui croit aux vertus de l'éducation.
Et son père est un homme, nous dirions aujourd'hui, de gauche. C'est un républicain, il veut absolument faire étudier ses enfants, y compris ses filles. Il aura deux sœurs qui sont institutrices, ce qui pour l'époque est à peu près ce qu'une fille peut faire de plus avancé. Et quant à Gennaro, il commence des études d'ingénieur et puis son père a des difficultés à payer à la fois les études d'institutrice d'une des sœurs et ses études d'ingénieur, et donc il doit arrêter ses études. Et je crois que c'est une des clés de son amertume face à la vie, c'est que c'est un jeune homme très intelligent, mais qui, pour des raisons sociales, n'a pas pu faire les études pour lesquelles il était manifestement doué.
Il va rentrer dans son village. C'est une époque où on fait une sorte de publicité pour l'armée. En 1878, il rejoint l'armée. Et là, c'est aussi un moment crucial dans la construction de sa pensée à Rubino.
Oui, il a lu un ouvrage qui est à l'époque extrêmement diffusé en Italie, qui s'appelle La vie militaire. Et suite à cela, il va s'engager, espérant construire la nouvelle Italie égalitaire, unie entre le Nord nord et le sud, etc. Et au lieu de ça, ce qu'ils découvrent, c'est un milieu extrêmement hiérarchisé, avec des injustices profondes. Et comme c'est un garçon intelligent, il commence par monter dans la hiérarchie et être rapidement officier. Et puis, il va commencer à ruer dans les brancards, à protester contre des injustices, à écrire des articles républicains. Et donc, il va être rétrogradé au rang de soldat, de simple caporal. Et donc, ça ajoute aussi à l'amertume de ce jeune homme qui va, pour des motifs de discipline, être mis dans des bagnes qui sont des bagnes d'une rigueur extrême.
Alors, il faut remettre la rébellion ou l'insoumission de Rubino dans un contexte plus général. À l'époque, en Italie, à la fin du 19e siècle, les mouvements anarchistes commencent à être très, très présents.
Oui, c'est une région, les Pouilles, qui est une région très rurale, avec des paysans extrêmement pauvres, mais les idées révolutionnaires ont fait leur chemin jusque-là. Et il y a eu dans le royaume de Naples des rébellions importantes. Il y a notamment eu une révolte à Benevento en 1877 qui a été une première petite révolution, matée évidemment dans le sang. Et dans ce milieu rural, il y a les idées anarchistes qui font leur chemin. Et par exemple, les anarchistes russes comme Bakounine ont des adeptes dans les milieux ruraux du sud de l'Italie.
Bakounine qui s'est exilé aussi en Italie. Alors, réaliser l'égalité sociale et la liberté individuelle en remplaçant l'État par la libre association d'individus, c'est ce que veulent les anarchistes qui prônent la violence.
Alors, c'est évidemment un des points importants à comprendre. C'est qu'ils ont d'abord essayé de faire des révolutions, et celle de Benevento, par exemple, a échoué. Et donc, ils vont passer à une autre tactique, qui est la tactique de la propagande par le fait, c'est-à-dire de l'action individuelle. Et donc, il y a une vraie épidémie, je dirais, d'attentats anarchistes à la fin du 19e siècle. Il y a des attentats anarchistes dus à des Italiens en France, aux États-Unis, en Espagne. Le roi d'Italie, en 1900, est assassiné par un anarchiste italien. La fameuse princesse Zissi, l'impératrice Zissi, meurt des suites d'un attentat anarchiste dû à un Italien qui s'appelle Lucchini. Et donc, il y a là comme une traînée de poudre qui se répand sur l'Europe. Et les anarchistes sont, en règle générale, soit des Russes, soit des Espagnols, mais très largement des anarchistes italiens.
La bonne aventure.
Non, va-t'en.
Je lis dans les lignes de la
non,
mer.
Non, va-t'en.
Bel officier.
Allons, laissez-nous.
Donnez-moi pas votre
temps.
Main.
Pourquoi, vous n'êtes donc pas curieux?
Si, très curieux, mais je ne voudrais pas qu'elle détruise les merveilleux rêves que je fais aujourd'hui.
Eh bien, moi, je préfère savoir. Allons, que lis-tu dans ma main?
Ces lignes-là veulent dire que tu auras encore deux enfants.
Des filles?
Un fils d'abord. Ensuite, une fille. Et tu seras toujours heureuse et bien portante.
Donnez-lui quelque chose pour la récompenser. Je n'ai pas d'argent sur moi. Et jetez aussi quelques pièces aux enfants.
Merci. Cosmem. Pauvre femme. Malheureuse, je n'envie pas son destin.
Voilà,
un jour dans l'histoire.
L'impératrice Sissi, qui a donc été assassinée, vous le rappelez, Almorelli, par un anarchiste italien, Lucchini. Alors, Rubino donc, a fait de la prison, on l'a dit, insoumission à l'armée. Il en sort à 28 ans, il n'a pas de statut, pas de moyen d'existence. Il rentre au village, il va se marier avec une jeune femme qu'il a rencontrée lorsqu'il était adolescent. Santé mentale un peu déficiente que cette dame, qui va être d'ailleurs enfermée plus tard. Et puis, il va de nouveau faire de la prison, Rubino, pour des faits d'escroquerie. Et puis, à presque 40 ans, il est dans une situation précaire. Et là, il va s'embarquer pour Londres. Pourquoi Londres?
Eh bien, Londres, à l'époque, c'est vraiment la plaque tournante du monde européen. Et il y a là, notamment, une forte immigration italienne. Il y a tout un quartier italien et dans cette immigration italienne, les idées anarchistes sont très répandues. Il y a des journaux anarchistes italiens à Londres et il y a notamment Malatesta, Enrico Malatesta, qui est un des théoriciens de l'anarchie, de l'anarchisme italien, qui est en exil à Londres. Et la vie de Rubino à Londres va être extrêmement mouvementée, c'est-à-dire que, pour simplifier, disons qu'il va être un agent double, à la fois anarchiste et à la fois indicateur pour le gouvernement italien qui veut savoir ce qui se passe dans ce milieu-là.
On va voir qu'il va tomber dans un piège, on va y revenir. Il est polygame quand même aussi, il faut
alors,
le préciser.
Oui, dans le sens où le divorce n'existe pas pour lui et qu'il va se marier en Angleterre avec une Britannique de laquelle il va avoir un fils. Et ce fils, il va lui donner le joli nom de Marx Engels.
Et pourtant, les idées de Rubino semblent un peu confuses. On ne peut pas dire qu'il soit extrêmement engagé.
Alors, est-ce qu'il y croit lui-même ? Au moment où il est découvert comme agent double, il va vouloir absolument montrer que, dans le fond, il est vraiment un anarchiste. Et l'acte qu'il va poser à Bruxelles, c'est un peu la preuve de son engagement. Il veut montrer à ses anciens camarades que, oui, bien sûr, il a donné des informations au gouvernement italien, mais que c'était des informations qui ne mettaient personne en danger, que c'était des informations qu'on pouvait déjà trouver dans la presse, par exemple, ou qui étaient déjà complètement démodées, qui n'avaient plus aucun impact sur le groupe anarchiste. Et donc, il veut se dédouaner et il veut absolument montrer qu'il est un vrai anarchiste et il veut montrer à ses camarades de quoi il est capable.
Au fond, le gouvernement italien, la sûreté italienne, lui demandait de dénoncer les anarchistes et de prévenir les attentats qui étaient possibles à l'époque.
C'est ça, mais lui, ce qu'il donne comme renseignements, ce sont des renseignements peu intéressants, en fait. Et je pense qu'effectivement, il n'a pas dénoncé ses camarades.
Il a accepté pour raisons économiques, comme beaucoup.
Alors, absolument, il est dans une dèche totale. Il a essayé de mettre au point un certain nombre de petites entreprises, d'activités, sa foire à chaque fois. Et donc, c'est au milieu de ses dettes qu'il va fuir finalement l'Angleterre et qu'il va se retrouver à Bruxelles.
Le choix de Bruxelles, c'est presque un choix pratique, je dirais.
Alors, c'est pas très loin de l'Angleterre. Ouais. Il n'a pas beaucoup d'argent. Il ne pourrait pas aller aux États-Unis ou dans un pays très lointain. Et d'autre part, c'est la personnalité de Léopold II. Et là, ça a été mon premier étonnement parce que je pensais qu'il avait choisi Léopold II à cause de la question du Congo, de l'exploitation coloniale, et pas du tout. Ce qui l'a motivé, c'est l'attitude de Léopold II envers les manifestants pour le suffrage universel.
On va revenir à ces manifestations et au massacre de Louvain. Il choisit aussi Léopold II, ça c'est étonnant, pour ses mœurs qu'il trouve un peu décadentes. Il est un peu bourgeois au fond, Rubino.
Alors oui, c'est assez amusant de sa part, puisque lui-même est polygame, bigame en tout cas. Mais d'autre part, c'est vrai qu'il y a un aspect, je dirais, pédophile au vieux roi, qui peut choquer au-delà du fait qu'il a une femme et qu'il a une maîtresse. Il y a le fait qu'il met enceinte une petite jeune fille à peine adolescente et que lui est un vieillard tout à fait caduque, je dirais, à ce moment-là.
Et ça, Rubino, ça ne lui plaît pas du tout.
En 1831, la Constitution belge a été établie par des bourgeois, pour des bourgeois. Elle prévoit des élections censitaires. Autrement dit, ne pourront voter que les gens qui payent un certain nombre de taxes, d'impôts, c'est-à-dire qui disposent d'un certain revenu. Et dans les faits, cela signifie que 2% environ de la population, et en tout cas moins de 140 000 personnes, peuvent effectivement voter. Cela signifie aussi que les catholiques, qui groupent les principaux possédants, disposent au Parlement d'une écrasante majorité. Ils ont à leur tête un homme bien peu porté à la tolérance, le terrible et despotique Charles Wust, grand bourgeois de droit divin, dont le caractère se résume assez bien dans cette phrase qu'il prononça un jour devant ses amis politiques. « Prenez garde, leur dit-il, contre la disparition de la pauvreté, qui entraînerait celle de la charité, l'une des plus nobles vertus chrétiennes. »
Gennaro Rubino est donc arrivé à Bruxelles, hein, Anne Morelli. Avant de poursuivre, et sur le choix notamment de Léopold II et ce massacre de Louvain, vous nous dites au fond, il correspond assez bien à un portrait traditionnel de l'anarchiste à l'époque, c'est-à-dire un type banal qui veut venger, qui se sent une sorte de mission vengeresse.
Oui, je pense que il a choisi de faire la propagande par le fait. Et donc, la violence individuelle, dans son esprit, peut changer les choses. Il espère que l'attentat contre Léopold II va être un électrochoc et que la population en Belgique va se soulever à la suite de ça et va réclamer la fin de la monarchie, le suffrage universel, la démocratie,
On verra
etc.
que ce sera moins exemplaire que cela tout à l'heure. Revenons donc à ces massacres de Louvain en 1902. On va y revenir en bref parce que j'espère qu'avec vous, on fera une émission autour de ça un de ces jours. Donc, que se passe-t-il à Louvain en 1902?
Eh bien, on a entendu dans la petite séquence précédente que, en fait, il n'y avait au début de la Belgique que 2% d'électeurs. Et comment le vote s'est élargi? Ben, à la suite de nombreuses manifestations, les démocrates espèrent à l'époque que si le vote était universel, si le suffrage était universel, les lois seraient faites en fonction de la majorité de la population. Et donc, en 1902, on n'est toujours pas à ce suffrage universel. Je rappelle qu'il ne sera obtenu pour les hommes qu'en 1919. Mmh. Et donc, en 1902, il y a des très grandes manifestations pour le suffrage universel et elles sont réprimées dans la violence. C'est une tolérance zéro, ouais, je dirais. Et le bruit court que c'est Léopold II qui a demandé à son ministre cette tolérance zéro. Et effectivement, on tire sur la foule à Bruxelles, on tire sur la foule à Louvain. Et les événements de Louvain seront très médiatisés, ouais, à l'époque dans le monde entier. Rubino avait une gravure représentant les morts de Louvain. Et ces 6 morts de Louvain, ils ont parmi eux notamment un petit jeune homme qui a 17 ans. Il y a là-dedans des gens qui manifestaient pour la première fois de leur vie. Et donc, son idée, c'est de venger les victimes innocentes de cette manifestation qui a été réprimée dans le sang par ordre de Léopold II.
On en arrive donc à la journée du 15 novembre 1902. Le Te Deum, ou cette messe commémorative à la mémoire de Marie-Henriette, est donnée donc à la collégiale Saint-Michel et Gudule. Le roi y est, on l'a dit tout à l'heure, il y a son frère cadet, il y a le prince héritier. Enfin, il y a 3 berlines qui vont défiler. Comment les 3 berlines, d'ailleurs, on peut les voir au Musée Royal d'Art et d'Histoire. Hein, la magnifique Louise, Marie et Vénus. Alors, comment Rubino va-t-il s'y prendre?
Alors, il a commencé à Bruxelles par aller à la Maison du Peuple, qui était à l'époque le repère, je dirais, des gens de gauche. Et puis, il s'est procuré des photos du roi pour bien viser la bonne personne. Mais en fait, il va avoir une série de malchance, de contretemps, disons. et de son point de vue, le brouillard est naturellement une de ses malchances. Le fait que ses poches ne sont pas bien réparées et que son revolver s'accroche dans la doublure est une autre malchance.
Un revolver belge.
Exactement. Et donc, il tire, mais il ne tire pas sur la berline du roi. Il tire sur la 3e berline, c'est la seule qu'il peut atteindre. Et finalement, personne n'est blessé. Et cet attentat est donc un échec pour lui et pour la cause qu'il soutenait. Il n'a pas réussi à venger les victimes de Louvain.
Les manifestants, les forces de l'ordre vont le maîtriser. Il va être emmené très rapidement au poste de police le plus près. Décision de mise au secret très très vite. Avant d'en arriver au procès, réaction de la presse catholique qui dit que c'est à cause de la presse de gauche.
Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y a déjà le stéréotype très fort de l'anarchiste italien. Mmh. Et donc, la presse dit c'est un anarchiste, virgule, italien, évidemment. Mmh. Hein, c'est comme si aujourd'hui, vous dites quelqu'un s'est fait sauter avec la dynamite autour de la taille. C'était un musulman, évidemment. Hein, ouais. Ça semble être dire deux fois la même chose.
On veut aussi faire monter, je dirais, l'émotion, c'est-à-dire que dans la presse, et notamment catholique, on dit qu'il y a un émoi populaire énorme. Vous vous dites qu'à travers les tests qu'on peut retrouver, au fond, c'était plutôt une sorte d'indifférence à cet attentat.
Alors, nous n'avons que la réaction officielle. On a effectivement ouvert des livres pour que la population puisse venir écrire toute sa sympathie pour le roi. Et ces témoignages de sympathie sont nombreux et réels. Il y a la société royale dans tout le pays qui manifeste leur sympathie à Léopold II. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est l'autre face naturellement de la médaille. Dans les cafés, dans les milieux populaires, qu'est-ce qu'on a dit? C'est peut-être un peu comme lorsqu'il y a eu une tentative d'attentat contre Margaret Thatcher, et des Britanniques, notamment dans le milieu des mineurs, ont témoigné qu'ils avaient hurlé de joie, exulté, croyant qu'ils étaient enfin débarrassés de Margaret Thatcher, et puis ils ont déchanté. Et il est très probable qu'il y ait eu la même réaction dans les milieux populaire et de gauche, mais il n'est pas bien séant d'en parler.
C'était un roi très, très impopulaire.
Impopulaire, et lorsqu'il meurt peu de temps après, par exemple, le journal de Le Peuple salue la mort du roi et met un titre « Caroline, maîtresse du palais », c'est-à-dire la maîtresse du roi, débarrassée du vieillard. Donc, on n'a pas toutes les données du problème.
Six semaines d'instruction, un procès en cours d'assises qui s'ouvre le 26 janvier 1903. Deux jeunes avocats socialistes militants, Royer et Gueudes, vont le défendre. Après deux journées effectives de procès, Gennaro Rubino est condamné aux travaux forcés à perpétuité. C'est un verdict pour l'exemple, selon vous?
Alors, c'est un verdict politique, bien évidemment, parce que finalement, il n'a tué personne. Et il va passer tout le reste de sa vie en prison dans des conditions abominables. J'ai vu les dossiers médicaux, il est dans une cellule d'isolement. Et dans une cellule d'isolement, n'importe qui devient fou après 10 ans, 15 ans, comme c'est son cas, puisqu'il va mourir après la Première Guerre mondiale de la grippe espagnole.
Il faut rappeler un autre attentat, quelque temps plus tôt, contre le prince de Galles, ici à Bruxelles. Là, c'est un jeune homme, hein, je crois. Oui. Il n'est pas condamné.
Il est acquitté, finalement.
Et ça, évidemment, ça fait mauvaise presse en Angleterre.
Alors, justement, il y avait eu cet acquittement d'un mineur d'âge ici en Belgique qui avait essayé d'attenter à la personne du prince de Galles. Et on veut sans doute éviter quelque chose de semblable. Et d'autre part, je dirais qu'il y a une grande différence. Le mineur d'âge était belge. Rubino est italien. Hein. À l'époque, les Italiens, c'est quand même les plus étrangers qui soient connus en Belgique. Et d'autre part, il s'agissait d'un mineur d'âge d'un côté et d'un homme de 40 ans de l'autre. Donc le mineur d'âge, on peut dire, allez, il va refaire sa vie, c'est un geste irréfléchi d'un jeune homme, etc. Dans l'autre cas, c'est quelqu'un de mûr qui a réfléchi son geste.
Et il faut une condamnation exemplaire pour ne pas donner le mauvais exemple, dire venez anarchiste en Belgique, l'air y est respirable. Quoi.
Effectivement, c'est un peu ça. Il y a sûrement cette idée d'un jugement pour l'exemple, et c'est un jugement très politique.
Rubino a raté son attentat. Néanmoins, est-ce que les choses changent après, dans ce rapport avec la puissance du pouvoir de l'État?
Alors, je ne pense pas que les choses aient changé. Léopold II va mourir 7 ans plus tard. Ce n'est qu'après la guerre de 14 que les choses vont changer et ce suffrage universel qui avait fait quand même beaucoup de victimes ne sera acquis qu'à ce moment-là. Je dois dire qu'aujourd'hui, à Louvain, il y a une commémoration très émouvante de cet événement parce qu'il y a une place Quentin Metsès où il y a une gigantesque case de vote qui est peinte sur le sol avec la silhouette des 6 personnes qui sont mortes là et que Rubino voulait venger par son acte.
Un éditorialiste à l'époque écrit quand même « Il n'y a plus de prince aujourd'hui, plus président qui puisse se dire à l'abri du poignard et du revolver ».
C'était le but des anarchistes, ouais. C'était de faire peur aux princes qui nous gouvernent. Et je pense que là, ils y avaient effectivement réussi à la charnière du 19e et du 20e siècle.
Rubino, l'anarchiste italien qui tenta d'assassiner Léopold II, c'est une émission qu'on a réalisée avec Anne Morelli le 13 décembre 2013. Restez avec nous, on se retrouve avec notre partenariat, la radio-télévision suisse et l'émission Monumentale. On vous emmène aujourd'hui à Ancône. Il est temps à présent de retrouver l'émission Monumentale de la radio-télévision suisse. On vous emmène aujourd'hui à Ancône, cette cité qui s'étend sur plus de 400 km², cette merveille archéologique située au Cambodge. Plusieurs centaines de temples témoignent de la richesse, du raffinement et de la puissance de la civilisation khmère. Et pour parler de cette cité impériale, Joanne Ducé reçoit Anne Lemestre, directrice du bureau de l'UNESCO au Cambodge.
Moi, je prends toujours une image pour pouvoir illustrer la grandeur d'Ancône. C'est vous imaginez l'Île-de-France, parce que l'ensemble du parc d'Ancône fait quand même 401 km². Vous videz l'Île-de-France de ses routes, de beaucoup de choses, de beaucoup de constructions et d'habitations. Vous n'en gardez que les grands bâtiments du style Versailles, les Invalides, le Panthéon, Notre-Dame. Vous mettez des rizières, de la forêt un petit peu partout. Vous transformez les habitats en villages. Il y a 112 villages à Ancône. Voilà, c'est à peu près ça Ancône. Donc voilà, vous gardez les monuments principaux et ça émerge dans une forêt tropicale claire, au milieu des rizières. Donc c'est un grand territoire.
Il y a combien de temples qui se trouvent sur ce site ?
Alors ça, c'est une très bonne question parce que nous avons environ entre 25 et 30 temples de taille majeure, qui sont des monuments insignes. Et puis, à côté, nous faisons des relevés archéologiques. Et il y a environ des centaines de vestiges archéologiques sur le territoire d'Ancône. Sans compter tout ce qui est en dehors, dans la périphérie proche du site d'Ancône.
Est-ce qu'il s'agit de constructions uniquement à caractère religieux ?
Alors, ce qui est visible de nos jours, oui, ce sont principalement des temples, c'est ce qui reste. Mais c'est ce qui reste d'une civilisation. Et une civilisation ne se construit pas et ne se nourrit pas que de religion. De ce fait, nous retrouvons toutes les voies royales, nous retrouvons tout un système hydraulique très sophistiqué parce que cette civilisation était une civilisation riche pour pouvoir se permettre de construire des temples aussi énormes. Et par conséquent, c'était une civilisation basée sur la culture du riz et son irrigation. Le grand défi du Cambodge, c'est de pouvoir conserver l'eau, puisqu'on a deux périodes, la saison sèche, la saison humide. Alors le défi, c'est d'avoir de l'eau pendant la saison sèche et de ne pas être inondé pendant la saison humide. Donc, d'où la maîtrise de l'eau extrêmement importante et essentielle pour pouvoir survivre. Donc, oui, il y a énormément d'infrastructures, de canaux, de digues, de bassins qu'on appelle des barailles et qui sont des bassins énormes. Il y en a un qui fait 2 km sur 8 km. Donc vous voyez les dimensions. Et puis alors, il reste, et c'est ce qu'on est en train de découvrir maintenant, toute la vie quotidienne à Angkor. C'est-à-dire que c'était des villages avec des maisons en bois et on retrouve des fragments de céramique, des fragments de tuiles qui sont en fait la vie quotidienne à Angkor.
Au temps de sa splendeur, est-ce qu'il y avait beaucoup d'habitants à Angkor ?
Alors ça, c'est une question qui demeure une énigme, mais néanmoins, on évalue au 11e, 12e siècle le chiffre d'environ 1 million d'habitants, ce qui est quelque chose d'énorme pour l'époque, parce que nous, il faut se remettre dans le contexte pour nous, Européens, de l'époque médiévale. Et quand nous avions des villes de 100 000 habitants, 500 000 habitants, nous considérions déjà que c'était des très grosses villes. Donc oui, des lieux très peuplés. On a su cela parce qu'on a découvert une inscription, notamment dans le temple de Taprom. Et dans cette inscription, il y est mentionné qu'environ 12 000 personnes servent le temple. Donc, c'est-à-dire que 12 000 personnes étaient utilisées juste pour le service religieux et les rituels du temple. Et on a évalué de ce fait qu'il fallait environ 50 000 paysans pour pouvoir nourrir cette population. Donc, en ajoutant l'ensemble des temples et de calculs de la même échelle, on va dire, on s'est dit qu'il y avait à peu près 1 million d'habitants encore.
Du 9e au 13e siècle, 38 rois d'Angkor ont régné depuis cette région sur un immense empire qui s'étendait du Sud-Vietnam au Laos et du fleuve Mékong à l'est de la Birmanie. En accédant au pouvoir, chacun construisait un nouveau temple et parfois une nouvelle capitale.
Anne Lemaître, est-ce que c'est juste de dire que ce site finalement regroupe les différentes capitales de l'Empire Khmer ?
Ah, c'est sûr. Ça, c'est le lieu où toutes les capitales de l'Empire Khmer se sont concentrées, en sachant qu'il y a eu des petites exceptions quand même. Hein. Mais Jayavarman II, en l'an 802, monte sur le Kulen et se déclare être le roi des rois, le Devaraja. Et il commence à unifier tous les petits royaumes qui étaient morcelés tout autour d'Angkor et à les rassembler dans ce qui va devenir l'Empire Khmer. À partir de ce moment-là, il a été la tradition de construire sa capitale, quel qu'en soit le roi, dans cette plaine angkorienne qui est irriguée par 3 rivières principales qui descendent des monts du Kulen, qui est juste à côté. Et ces monts des Kulen, en fait, déversent une eau qu'on considère comme sacrée, parce qu'on a taillé le fond de la rivière avec des lingas, qui sont donc la représentation de Shiva. Et ces lingas, qui sont en fait un phallus, il faut le dire, irriguent l'eau de la rivière, la fécondent, et de ce fait, l'eau va féconder la plaine qui est en contrebas. Donc vous voyez, c'est une symbolique très forte. Donc en raison de cette symbolique, l'ensemble des capitales, enfin, ont vu le jour dans cette plaine angkorienne. Il y a un roi néanmoins qui s'est démarqué, c'est Jayavarman IV. Et en 928, il a décidé d'aller construire sa capitale tout au nord. Alors lui, c'est vraiment une parenthèse un peu inexpliquée jusqu'à nos jours, mais qui est intéressante aussi, qui a donné naissance à une autre capitale qui s'appelle Koker.
Associant leurs propres croyances aux religions hindouistes importées par les marchands qui diffusent les cultes de Siva, de Rama et de Vishnu, de même que la sagesse bouddhique, les Cambodgiens ne tardent pas à forger un panthéon original. À côté des lions protecteurs, les divinités autochtones que sont les Nagas, ces serpents qui symbolisent l'eau bienfaisante, peuplent tous les temples khmers. Cette omniprésence des Nagas, en forme de balustrade enserrant les édifices et conduisant jusqu'au bassin, témoigne bien de l'importance de l'eau dans le monde angkorien.
Les vestiges que l'on peut voir à Angkor sont d'architecture khmer. Est-ce qu'on arrive à la définir, cette architecture ?
Oui, cette architecture khmer, d'abord, c'est une architecture de forte inspiration indienne. Ça, il ne faut pas se le leurrer. C'est une architecture qui s'organise spatialement exactement de la même manière, avec au centre la représentation du mont Meru, qui est donc la résidence des dieux, un petit peu comme l'Olympe pour le monde grec. Et avec autour ce qu'on appelle l'océan primordial, qui est représenté par des douves qui généralement sont énormes et qui sont tout autour des temples en forme de carré. Donc on l'associe bien à l'architecture indienne et on en connaît bien l'organisation spatiale. La seule chose qui est quand même très intéressante dans l'art khmer, c'est qu'on voit bien que l'art indien a été complètement digéré et recréé, repensé, réélaboré d'une certaine façon. Et c'est ça qui le rend si intéressant. Alors beaucoup nous disent, oui, mais ce sont des architectes indiens qui ont construit encore. Beaucoup d'historiens s'opposent à cette théorie et disent non, en fait, ce sont des commerçants de la région qui sont allés en Inde et qui sont revenus et qui ont rapporté tous ces préceptes d'architecture. D'où, ce n'est pas un syncrétisme, c'est juste une interprétation, en fait, de l'architecture et de l'art indien. Et c'est ce qui le rend si original.
Angkor Wat, le plus admirable de ces temples qu'ont édifié les Khmers. Ce monument gigantesque mérite bien de figurer parmi les merveilles de l'humanité. Ses perspectives, qui s'étalent sur près de 4 km, culminent dans les cinq tours de son massif central, véritable montagne artificielle vers laquelle convergent les voies sacrées que jalonnent les Nagas protecteurs. Érigé au XIIe siècle par le roi Suryavarman II, l'édifice nécessita plus de 35 ans d'efforts. Et s'il est l'œuvre de tout un royaume, c'est aussi que le peuple entier d'Angkor convergeait vers ce sanctuaire au jour de fête.
Le monument le plus célèbre d'Angkor, c'est Angkor Wat. Il est le symbole du Cambodge.
Oui, il est le symbole du Cambodge. Il est sur le drapeau du Cambodge depuis plusieurs décennies. Et en fin de compte, ce n'est pas si courant. Mais au lendemain de décennies de tourmentes et de grandes souffrances, après les accords de Paris de 1991, je dirais que le seul sujet sur lequel tous les Cambodgiens et toutes les factions politiques tombaient d'accord, c'était vraiment Angkor. C'est-à-dire que lorsque le roi Sihanouk a lancé un appel à la communauté internationale pour agir, etc., personne ne s'y est opposé. Et toutes les factions politiques ont dit oui. Donc c'est un symbole d'identité nationale qui donne du courage et qui a donné du courage aux Cambodgiens au moment où ils étaient sur le point de signer un accord de paix entre eux après une guerre civile atroce et qui donne aussi l'espoir d'un avenir meilleur.
On va le décrire, ce temple d'Angkor Wat, en quelques mots.
C'est un peu un temple de tous les superlatifs parce qu'on rentre dans une espèce de dentelle de pierre à tout point de vue, mais c'est un temple extrêmement classique. Hein. C'est l'apogée de l'art khmer classique avec toujours la même organisation spatiale dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le mont Meru qui est au centre avec cinq pics et qui représentent donc le monde des dieux. Et puis ensuite différentes enceintes et sur le côté, tout autour, des douves de 200 mètres de large qui encadrent le temple central. Le temple est parcouru de trois galeries et à l'intérieur de ces galeries, il y a des galeries notamment qui sont couvertes de bas-reliefs et tout cela est finement sculpté avec un sens du détail et une qualité artistique absolument époustouflante. On dénombre entre presque 2000 apsaras qui sont sculptés sur les murs d'Angkor Wat, qui sont des danseuses célestes. Et ça rend ce temple d'une poésie incroyable.
à l'origine de la construction d'Angkor Wat et quelle était sa fonction ?
C'est le roi Suryavarman II qui, au début du XIIe siècle, a décidé la construction d'Angkor Wat. C'est un temple, Suryavarman II, contrairement aux autres rois, a dédié ce temple à Vishnu. Il y a dans l'iconographie hindoue, trois dieux principaux, Shiva, Vishnu et Brahma. Et généralement, les temples au Cambodge sont dédiés à Shiva. Et là, exceptionnellement, il est dédié à Vishnu parce que nous pensons que Suryavarman II s'est associé à la symbolique de Vishnu. Donc c'est celui qui maintient l'équilibre du monde après que Shiva les détruit et les reconstruit grâce à Brahma. Donc je crois que Suryavarman II, parce que c'était un dieu de conquête, mais également un grand réunificateur, puisqu'on voit sur les bas-reliefs d'Angkor Wat que des armées de toutes les provinces de l'Empire viennent combattre à ses côtés, et on les reconnaît puisqu'ils sont tous avec des vêtements et des coiffes complètement différentes. Donc on les imagine bien venir des montagnes du nord-est du Cambodge, du Laos, peut-être encore plus loin de Thaïlande. Et on voit toute leur physionomie différente. Donc il a un rôle de réunificateur. Donc c'est la raison pour laquelle... à cause de cette association symbolique qu'il a dédié ce dieu à Vishnu.
Quand on le regarde, quand on se met en face d'Angkor Wat, on ne peut pas s'empêcher de se dire que le travail des bâtisseurs a franchement dû être colossal.
On estime à 35 ans le nombre d'années qu'il a fallu pour construire cela. Mais nous n'avons pas pu calculer le nombre de personnes décédées et usées à la tâche pour la construction de ce temple. En même temps, la foi soulève les montagnes et construire un temple de cette nature, comme il était pour nous à l'époque médiévale, la construction des cathédrales, c'est-à-dire que c'est un acte de foi de construire un temple pour un dieu que l'on honore.
Car les rois d'Angkor ont dressé de vraies cathédrales de pierre au cœur de la jungle indochinoise. À l'heure même où s'édifient en Occident les nefs de Tournus et de Cluny, de Chartres et de Reims, les souverains cambodgiens érigent ces prodigieuses cités de Dieu. Entre le 7e et le 12e siècle de notre ère, Angkor connaît une fureur de bâtir comparable à celle de notre Moyen-Âge qui se couvre de blanches églises.
Nous imaginons bien que toutes les personnes qui ont été associées à la construction d'Angkor Wat, comme des autres temples, considéraient leur action comme un acte pieux et certainement comme un honneur, même si nous imaginons les travaux harassants, connaissant la chaleur, les conditions rudes de cette partie tropicale du Cambodge, dans la forêt, avec les moustiques, donc on imagine la malaria, et puis le manque de transport, en fait les éléphants étaient extrêmement sollicités, les Khmers avaient trouvé des moyens très ingénieux aussi de transporter des pierres à travers les rivières, mais ils ont également creusé des canaux de manière à pouvoir faciliter le transport des radeaux. Mais tout ceci est un travail absolument impressionnant.
C'est un temple, Angkor Wat, qui a été bien conservé.
C'est un temple relativement bien conservé, oui, parce que même lorsqu'Angkor a été abandonné au XVe siècle, c'est un temple qui a toujours était le lieu de pèlerinage. Et effectivement, c'est un temple hindouiste, mais qui après est devenu un temple bouddhiste, et de ce fait a accueilli des pèlerinages. Au XVIe siècle, les navigateurs portugais le mentionnent, et on voit que ce temple est toujours en activité, même si le reste d'Angkor est absolument enseveli par la végétation. Donc, jusqu'à nos jours, oui, Angkor Wat n'a pas subi de dommages énormes parce que on n'a pas laissé la végétation couvrir entièrement le temple. C'est généralement les racines des arbres, en fait, qui a une action complètement comment dire, souterraines par leurs racines à travers les joints des pierres. Encore, Watt n'a pas subi l'envahissement de la végétation.
Derrière les murailles d'Angkor Thom s'étendait une immense capitale aujourd'hui submergée par la forêt vierge. Mais au cœur de cette ville brille encore l'un des plus étranges et fascinants monuments de l'humanité, le Bayon. Dressant vers le ciel la masse hérissée de ses 54 tours, il représente le dernier rêve pétrifié des souverains d'Angkor et marque le grandiose chant du cygne d'une civilisation qui va s'éteindre.
Autre temple bien connu, c'est le Bayon. Alors on le reconnaît facilement, celui-ci, à ses tours sculptées de visages géants. C'est souvent un temple qui impressionne.
C'est un temple qui est un défi à l'imagination. Parce qu'il faut imaginer que ce temple, qui a donc été construit par Jayavarman VII, c'est le dernier temple qu'il ait construit. C'est un temple d'État, un temple montagne aussi. Et effectivement, les tours sont sculptés avec des visages qui demeurent encore des énigmes de nos jours, hein, parce que ce sont des visages qui sont orientés aux quatre points cardinaux. Et on voit bien que ces visages ont subi des transformations. Jayavarman VII était un roi bouddhiste. Et de ce fait, le temple qu'il a créé est un temple bouddhiste, donc généralement, les visages qui sont représentés sont ceux de Lokeshvara, qui est une figure fondamentale du bouddhisme, du grand véhicule. C'est-à-dire que le Lokeshvara, c'est la personne qui n'ira jamais dans le nirvana, qui se réincarnera toujours sur Terre pour pouvoir aider ses conjoints à s'améliorer au fil de leurs différentes vies, pour pouvoir un jour se libérer du cycle des vies et connaître enfin le nirvana. Donc on imagine que ce sont des Lokeshvara qui ont été sculptés là sur les visages, mais d'autres nous ont dit ensuite que cela a été interprété comme Brahma. Vous voyez, Brahma, c'est exactement la même représentation avec quatre visages de chaque côté. Parce qu'après, ce temple, après avoir été bouddhiste, est devenu hindouiste de nouveau et a subi de nombreuses transformations. Mais ce qui est extraordinaire au Bayon, en plus de ces tours à visages, ce sont les bas-reliefs. Parce que les bas-reliefs dépeignent pour la première fois la vie quotidienne à Angkor. Et ils nous racontent des petits épisodes savoureux de la vie quotidienne, des scènes de cirque, des scènes de pêche, des scènes de combat de coq, des scènes de la vie quotidienne comme une femme qui accouche. Vous voyez des tas de moments saisis sur le vif et puis qui nous rappellent étrangement la vie paysanne aujourd'hui encore.
Avoir aussi Taprom, ça c'est un temple que nous avons tous vu au moins une fois en image, parce que c'est un lieu où les vestiges sont carrément prisonniers des racines. On l'a tous vu ce temple.
Oui, oui, oui. C'est un temple de Jayavarman VII aussi, qui, par la décision de l'école française d'Extrême-Orient, a été laissé à son état de nature. En fait, c'était pour pouvoir nous donner une idée de la manière dont étaient les temples au moment où les explorateurs sont arrivés. En sachant que Taprom est quand même bien dégagé mais de la végétation et des broussailles. Mais les arbres principaux, et il y en avait comme ça dans tous les temples, les fromagers qu'on a appelés, en fait ce sont des banyans, mais ce sont des fromagers, on les a appelés comme ça parce que leurs racines ressemblent à du fromage qui coule, voyez-vous. Donc, et c'est vrai que ces racines qui sont comme les pattes d'une pieuvre tentaculaire s'immiscent dans tous les fragments de la pierre. Et c'est eux, en fait, qui détruisent le temple. Mais ce mariage minéral et naturel est d'une beauté époustouflante. Et c'est la raison pour laquelle ce temple est laissé dans cet état. C'est effectivement une des images iconiques d'Angkor.
La cohorte solennelle et magnifique des dieux et des démons dont l'influence alternée sanctionne toute vie, garde les portes d'Angkor Thom, la grande cité. C'est par la chaussée des géants qui franchit la douve précédant les murailles que l'on pénètre dans l'éblouissante capitale édifiée au XIIe siècle par le dernier grand roi des Khmers.
Ce royaume d'Angkor, il va rayonner jusqu'à quelle période environ ?
Il va rayonner environ jusqu'au XVe siècle. Et je dois dire que les raisons de son déclin sont multiples et sont encore débattues. Nous avons des réunions scientifiques sur Angkor maintenant depuis 15 ans grâce au Comité international de coordination. Bon, je ne peux pas dire que c'est le thème de nos débats à chaque fois, parce qu'on parle beaucoup conservation, restauration, on a beaucoup de débats scientifiques, on va dire, mais néanmoins, les causes sont croisées. On a parlé du dysfonctionnement de la cité hydraulique. La cité hydraulique, c'était un terme employé par un des anciens conservateurs d'Angkor, Bernard-Philippe Grolier. Et il est possible que ce système hydraulique se soit engorgé, n'ait pas été entretenu et de ce fait l'irrigation des rizières ne se faisait pas de la même manière et par conséquent la richesse d'Angkor n'aurait plus été à son pic et ne lui aurait plus permis d'entretenir les temples. D'autres raisons sont aussi les attaques incessantes des Siamois qui étaient juste à côté et dont les petits royaumes comme Sukhothai commençaient à émerger et à grandir en puissance. Il y a une autre raison aussi, c'est que on est en train de passer d'une société agricole à une société de commerçants. Et à ce moment-là, il est fort probable qu'ils aient voulu se rapprocher du Mékong de manière à pouvoir avoir accès aux voies du commerce qui étaient les fleuves, les mers, etc. Et par conséquent, Angkor était un petit peu trop enclavé pour pouvoir répondre à cette demande. Je crois que c'est une conjonction et un croisement de plusieurs événements, les attaques répétées, un appauvrissement progressif et cette tentation désormais de s'enrichir par le commerce et non plus par l'agriculture.
La cité d'Angkor, c'était l'émission monumentale, notre partenaire de la radio-télévision suisse avec Joanne Dusset qui recevait aujourd'hui Anne Lemestre, directrice du bureau de l'UNESCO au Cambodge. On va se retrouver lundi avec une année qui démarre avec des nouveautés. On va vous emmener au cœur de la civilisation et de la culture cathare en compagnie de l'historien Benoît Beyer-Derrick. Je vous souhaite un très très beau week-end sur la première et avant cela une belle après-midi avec La Vie en Rose.